Bien, alors écoutez, vous avez remarqué que la formule un peu du séminaire a changé pour cette fois. C'est-à-dire que le matin, nous allons avoir un cours d'exégèse et on vous a demandé, ça doit être marqué dans le programme d'ailleurs, de revenir d'un livre de Bréchit. Vous l'avez fait, parce qu'il n'y a pas suffisamment de livres ici. Je vous conseille d'en avoir un avec la traduction française, ça vous aidera à travailler. Il y a ce livre de Vogue. C'est Vogue, je ne sais plus. Bon, c'est la traduction du rabbinat français, ça doit être la même. Et comme je vais avoir à me référer à des passages très différents dans le livre, alors c'est difficile de prévoir à l'avance les photocopies. Mais je demanderai à quelqu'un de lire la traduction française quand nous en aurons besoin. Quelqu'un, c'est... Bon, quelqu'un qui a le livre, ça va comme ça, je pourrais. Bien. Alors écoutez, l'étude de ce matin portera sur une étude d'exégèse un peu minutieuse, j'irai lentement. J'ai rassemblé quelques références, le premier commentaire de Rashi, et une référence dans la Gemara, on va vous distribuer les textes, concernant l'importance des récits historiques, qui sont la préface de la Torah comme mitzvot. Nous allons étudier ça assez en détail. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion d'étudier des textes de ce type. Peut-être que nous l'avons fait une année, je ne sais pas quand. Ça vous donnera l'occasion de voir que derrière les grands principes que j'ai l'habitude de citer ou de signaler dans les conférences du soir, il y a des références très précises, d'exégèse assez minutieuse. C'est une étude pour elle-même, comme j'ai l'habitude de le dire. Ça s'appelle en hébreu la parchanout, c'est-à-dire, comment traduire? Parchanout. Comment vous seriez tenté de traduire ce terme de parchanout? Commentaire, oui. Alors je crois qu'on va fermer les... On va peut-être fermer les... Comment on appelle ça? Les fenêtres, non? Qu'est-ce que vous donneriez comme définition en français du terme de commentaire? Comment?
Comment faire parler?
Non, je vais dire tout à l'heure que ça se lit en deux mots, commentaire, comment ne... Commentaire, oui. Mais voilà, il y a deux manières de percevoir cette méthode du commentaire. Soit le texte ne semble pas avoir de sens, alors un commentateur projette sur le texte une explication de telle sorte de restituer une cohérence ou un sens qui a priori est considéré comme n'étant pas dans le texte, mais c'est une projection d'un commentaire d'un commentateur. C'est pas du tout la définition traditionnelle. La définition traditionnelle consiste à transmettre une mémoire qui s'est perdue, un préalable de connaissances préalables, hors de quoi on ne peut pas lire le texte. Essayons d'inverser un peu la familiarité qu'en culture générale on peut avoir sur le problème du commentaire, qui est le postulat, semble-t-il, je vais schématiser en disant le postulat universitaire, c'est que le texte n'a pas de sens et il n'a que le sens que le commentateur propose dans la formule écrite qui est l'objet du commentaire. Alors que la définition traditionnelle, c'est que ce texte ne peut être compris, ne peut être lu que par celui qui a déjà dans sa mémoire la culture préalable et la culture homogène à cette parole. Pour essayer d'éclairer un peu plus cela, vous me direz si c'est suffisamment clair, c'est que on a l'illusion de croire que les livres de commentaires qui s'ajoutent au texte primordial ajoutent de la connaissance et sont le signe d'un surcroît de connaissance, que les modernes savent plus que les anciens et que la multiplication des livres est le signe qu'il y a plus de connaissances par rapport aux sources dont on parle. En fait, pour la perspective traditionnelle, c'est l'inverse. Et ensuite, on schématisera. Je veux dire, on nuancera. Je schématise. C'est parce que nous savons moins que nous avons besoin de plus de livres écrits. Je crois que vous êtes assez familier à cela. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Donc, je voudrais aller au-delà de, des questions qui vont se poser. Que dans cette élaboration mise par écrit très minutieuse, il y a un enrichissement et un appui pour la mémoire postérieure, c'est indéniable. C'est ce qu'on appelle le chidouche, c'est-à-dire la capacité, et j'emploie plus le terme de commentaire pour traduire le mefaresh, hein, le terme de mefaresh, dans cette capacité de mise par écrit de façon minutieuse de la mise au point du raisonnement, il y a un enrichissement pour les générations postérieures de ce substitut de la mémoire qu'est l'exégèse. Est-ce que c'est bien clair? C'est indéniable qu'il y ait enrichissement. Tellement, nous avons un texte du Talmud qui est très clair, que je vais vous citer de mémoire. « Kolma she'atid hadish talmid vatik lehadesh ne'emar le Moshe Misinai. » Tout ce que, vous allez surtout noter l'expression de talmid vatik, tout ce que un élève, disciple, vatik, ça veut dire en hébreu « ancien », capable de la sagesse qui vient de l'ancienneté. Le Talmid peut être, du point de vue de l'âge, jeune, mais on l'appelle Vatik que s'il est assidu, compétent, dans cette familiarité avec la mémoire des anciens. Il y a ici une analogie, c'est une blague, mais enfin, il ne faut pas croire que c'est un membre du Vatican, le Vatik. Okay. Mais lorsque l'on dit tout ce qu'un Talmid est capable de renouveler dans la mise en expression du texte mis par écrit pour être lu, le Mikra, c'est pas Talmid Stam, quiconque, c'est Talmid Vatik. Il y a une catégorie de légitimité qui est indiquée par ce terme de Vatik, c'est-à-dire qui est dans la familiarité, dans la complicité, dans le sens positif, des Talmidei Chachamim qui reçoivent de génération en génération cette mémoire dont je vous parle. Nous allons voir un premier exemple dans l'étude d'aujourd'hui. A été déjà dit, dit le Talmud, à Moïse au Sinaï. Et nous allons voir dans la deuxième partie du cours un texte qui va généraliser cet enseignement. Il ne faut pas croire que n'importe quoi de regard nouveau jeté sur le texte est véritablement ce qu'on appelle en hébreu un chidouche. C'est très rare qu'il y ait un authentique chidouche. Et nous sommes aidés par cette longue épaisseur de temps qui nous sépare du temps de la révélation biblique. Lorsque un étudiant des textes a l'impression qu'il est en train de comprendre ce qu'il est en train d'étudier de manière non encore formulée, il doit prendre la précaution de vérifier avec tout ce qu'il y a eu d'écrit jusque-là pour savoir si c'est véritablement un chidouche. C'est clair ce que je dis là, vous voyez à quel point ça peut être rare. Et s'il a l'impression que c'est véritablement un chidouche, alors il doit demander à son maître ou à ses maîtres qui ont une autre mémoire que la sienne, une autre érudition que la sienne, si c'est véritablement un chidouche ou pas. Et en général, il y a un chidouche de chidouche de chidouche de nuance au 13e degré qu'on peut mettre en évidence, alors on le dit, du nom qui a été le Mechadesh, c'est-à-dire qui a eu ce privilège d'être le véhicule de renouvellement de cette perspective de sens très nuancée qui va être mise par écrit très minutieusement et citée à la lettre. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Il y a une expression assez parallèle que je vous cite pour l'éclairer dans le même sens, lorsqu'on dit « Elou ve'elou dibre Elokim Chaim » ce que disent les uns et ce que disent les uns. En français, on dit les uns et les autres. On ne sait jamais qui sont les uns et qui sont les autres. Mais en hébreu, ça se dit les uns et les uns. C'est un sujet, un thème de sagesse très important pour lui-même. Chacun est un. C'est l'autre qui est l'autre. Mais, bon, je referme la parenthèse, sinon ça nous mènerait trop loin. Son parole du Dieu vivant. Je le redis en hébreu. S'il y a quelque chose qui vous gêne dans un morceau de traduction que j'oublierai de faire, n'oubliez pas de m'interrompre. Elou velou dibre lokim chaim, oui, mais à condition que ce soit vraiment des paroles vivantes du Dieu vivant. C'est pas n'importe quoi. de dit qui sera dans cette légitimité que quiconque a le droit de dire ce qu'il a à dire, s'il a quelque chose à dire. Dans cette formule-là, il s'agit uniquement des contenus d'une parole vivante. Alors on peut dire que c'est les paroles du Dieu vivant. Pas toutes les paroles qui sont dites sont des paroles vivantes. C'est pas n'importe quoi. C'est pas pour garantir n'importe quoi qu'on pourrait dire, mais la tradition dit, cela et cela ont le droit d'exprimer leur parole. Bien sûr, tout le monde a le droit d'exprimer sa parole. Mais il y a une différence, comme je le dis très souvent et partout, pour employer l'expression française, en français, entre la pensée juive et la pensée des juifs. La pensée d'un juif n'est pas forcément la pensée juive. Est-ce que c'est clair du point de vue du sens des mots? Vous voyez, c'est parallèle. Kolma, chez Talmud Vatik, Ratil, les Hadesh, Nehemar, les Moshe, Misinaï. Ça veut dire qu'il faut savoir a priori que 99,99% de la capacité de renouvellement de formulation de ce que nous lisons dans ce que nous lisons est déjà connue. Un chidouche, c'est très rare. C'est clair ce que j'ai dit là ? Petite parenthèse importante. On a demandé une fois au Gaon de Vilna un des signes de l'arrivée du Messie. Il s'est très directement à dire ceci. Le jour où le même homme sera capable de faire un chidouche en mathématiques et dans la Torah, le Messie vient, est déjà là. Et peut-être c'est lui. Bon, ça c'est moi qui ajoute. Vous voyez ce que ça veut dire? Alors s'il y a des mathématiciens parmi vous, dans les autres disciplines, qu'est-ce que c'est un chidouche en mathématiques? Est-ce que c'est clair? De la même manière pour la Torah. Donc, je pourrais vous citer énormément de sources sur ce problème, mais je voudrais refermer la parenthèse. En particulier une braïta du 11e chapitre du traité de Sanhedrin qui dit Kol ha-megale panim batora shelo kahalacha en lo chelek la'olam haba af al pi sheyesh biyado torah u'ma'asim tovim. Une braïta très forte. Ça veut dire tout celui qui dévoile des apparences, des visages dans la Torah qui ne sont pas selon la légitimité n'a pas de part au monde à venir, même s'il a entre ses mains de la Torah et des vertus. C'est énorme. Ça veut dire que déjà au temps de la réflexion talmudique il y a 2000 ans, on a prévu ce problème. On peut faire dire à un texte qui par définition est là, vulnérable, exposé, mort, si j'ose dire, on va le ressusciter, mais on peut lui faire dire n'importe quoi. Est-ce que c'est clair? Alors la Braïta prévoit, attention, il y a des visages que l'on peut dévoiler, mais qui sont des visages morts. Alors celui qui dévoile un visage mort dans la parole vivante n'a pas de part au monde à venir, même si c'est un érudit et un homme pieux. Torah ma'asim tovim, on pourrait traduire dans ce sujet, érudit et pieux. Mais, voilà, je referme la parenthèse. Top. Je vais vous donner un exemple dans l'art, parce que je crois que chaque fois que vous posez une question, ça me renvoie chez les artistes, je ne sais pas pourquoi. Vous avez un art vivant, et lorsqu'on le contemple, on le perçoit, on s'en nourrit d'une nourriture de vie pour l'âme. Et vous avez des arts néfastes, je ne sais pas comment dire, morbides, et ça fait mourir, ça ne fait pas vivre. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est la même chose. Et là, il y a des vérités vivantes, il y a des vérités empoisonnantes. Aucun rapport avec ce qu'il y a dans les journaux. Oui, et je vous donne un exemple. Un tout petit exemple, parenthèse pour l'enregistrement. Okay. Voilà. J'ai un peu été, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mené à donner des exemples de notre tension de controverse avec le christianisme contemporain. Hier soir, okay, je vais en prendre un autre. Je veux dire, j'arrive de Strasbourg, j'ai participé à un séminaire et où j'ai perçu quelque chose d'extrêmement positif dans ce qu'on m'a raconté de l'intervention du cardinal de Courtrai, c'est comme ça qu'il s'appelle, à Strasbourg, qui, semble-t-il, a été plus que positif, inattendu, sensationnel. Et donc, ce que j'ai dit hier soir, il y a des percées d'ordre positif. La communauté à Strasbourg était heureuse, dans la difficulté d'être contemporaine, de cette conférence, de cette intervention du cardinal. Mais en même temps, nous avons des percées dans l'ordre négatif. Il y a des visages positifs qui se dévoilent et en même temps des visages négatifs. Il y a des visages de vie et des visages de mort qui se dévoilent en même temps de la même parole chrétienne. Et voilà un exemple en passant. Mais je vous donnerai à quoi je pense, c'est par exemple à, aux réceptions de Arafat chez le pape, aux réceptions de Waldheim chez le pape, à l'histoire du Carmel d'Auschwitz, à toutes ces choses extrêmement négatives, pendant qu'il y a d'autre part des choses extrêmement positives. Je crois que j'en ai parlé l'année dernière aussi, je ne me souviens plus à quel propos, mais je voudrais vous donner un exemple dans les sources juives. À propos du verset « Vezot haTorah » Asher Sam Moshe Lifne Bene Israël, et celle-là est la Torah qu'a placé Sam Sin Mem, placé la Sim, la Soum, devant les enfants d'Israël, proposé aux enfants d'Israël. La Gemara dit ne lit pas Sam avec Sin, mais Sam avec Samer. Et Sam avec Samer, c'est pas l'oncle Sam, mais c'est le poison. Alors elle dit Zacha Sam Haim, lo Zacha Sam Mavet. Ça veut dire, je traduis, pour celui qui mérite, c'est une drogue de vie, si je traduis par drogue. Pour celui qui ne mérite pas, cette même Torah, c'est un poison de mort. Cette même Torah. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Ça dépend qui lit et l'âme de qui projette son âme sur le texte de cette parole. Il peut la faire parler comme parole vivante, il peut la faire parler comme parole empoisonnante. Je ne sais pas comment dire. On va en être occupé dans les cours du matin, il y a un préalable d'identité, de compatibilité avec le projet de la Torah qui doit être élucidé pour que la parole qui est lue soit vraiment la parole de la Torah. J'ai indiqué cela simplement pour éclairer le problème du chidouche. N'importe quoi n'est pas chidouche. C'est pourquoi il faut, en hébreu, nous évacuons dans le terme de mefaresh le sens français de commentaire dans la méthode universitaire, qui s'appelle la méthode critique. C'est-à-dire c'est le critique qui fait dire au texte ce qu'il veut. Alors il peut y avoir des critiques positives, négatives, c'est un jugement de valeur, c'est pas ce que je veux dire, exactes et des critiques non exactes. Je crois qu'il y a une psychanalyse du commentaire à faire pour essayer de comprendre qui a parlé de quoi. Il y a tant chez Maïmonide que chez le Maharal un enseignement très important à ce sujet. Je vous indique les sources dans le Maharal. Ce sont les premiers chapitres de Netivat Torah dans Netivot Olam du Maharal. Le Netivot Olam du Maharal est un ouvrage très important en deux volumes. Dans le premier volume, le premier sujet, c'est le chemin, le sentier de la Torah. Il y a tout un ensemble de chapitres très importants où le Maharal indique qu'il faut complètement se dégager de l'intérêt des passions pour avoir le droit d'entreprendre de parler de la vérité. Jusque-là, on est toujours dans le risque de projeter les passions dans le discours de vérité que l'on exprime. J'ai parlé souvent de la différence d'authenticité de la sagesse des sages âgés et de la sagesse des sages moins âgés. Ou disons jeunes et moins jeunes. Une minute, j'ai vu que... l'expression « zaken » en hébreu, que l'on traduit par « vieux », est expliquée dans la Gemara par « ze kana chorma », celui qui a acquis la sagesse. Et c'est à propos du premier verset qui nous dit « Abraham zaken », lorsque Abraham est arrivé à la zikna, on traduit donc la vieillesse, mais... Tout de suite après, il y a une autre expression qui dit « Baba Yamim, avancé en jour ». Donc « avancé en jour », ça veut dire « vieux d'âge ».« Zaken », ça veut dire quoi ? La Gemara explique « sage », par acquisition de la sagesse. Il y a un des procédés de lecture kabbaliste des termes, le mot de « zaken » est présenté comme la contractation de trois mots « ze kana chorma ». On entend dans « ze kana chorma », celui-ci a acquis la sagesse, le terme de « zaken » en filigrane. Alors que Zaken, ça veut dire Zikna, la vieillesse. Eh bien, lorsqu'on a une question à poser, à deux sages, à compétences égales, il n'y a aucune égalité dans les compétences. Mais grosso modo, on préfère la réponse du plus âgé. Ça ne veut pas dire que le plus jeune n'aurait pas donné la même réponse, il aurait donné la même réponse du point de vue de l'authenticité de la connaissance. Mais le fait que ce soit un plus âgé qui réponde, vous avez compris pourquoi, okay. De la même manière que lorsque nous avons une question à poser à un rabbin, on préfère, à compétence égale et à valeur égale, la poser au rabbin qui serait un Cohen, si jamais il est un Cohen. Est-ce que c'est clair? Je voulais ajouter autre chose, mais c'est quand même suffisamment précis. Ça veut dire que, retenez le sens de l'expression Talmid Vatik. C'est pas n'importe quel Talmid qui est dans le cas de ce qu'avait dit la Gemara, c'est déjà dit à Moïse au Sinaï. Je veux dire, dans un Beit HaMidrash, une yeshiva, quand vraiment on a entendu que résulte de l'étude quelque chose de nouveau, alors on emploie l'expression Tana Debe Eliyahu. On a appris cela à l'école d'Élie le prophète. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de la perpétuation de la prophétie. Parce que, quand il s'agit d'un vrai chidouche, dans l'étude en commun, à la fin de l'étude, on sait qu'on a appris quelque chose de vraiment nouveau, on le sait parce qu'on a une érudition de confrontation avec tout ce qu'il y a décrit déjà. Et on ne sait pas qui l'a dit. C'est sorti de l'étude. On dit, c'est Élie le prophète qui a parlé. Je sais pas, vous avez un texte qui commence par « On a enseigné à l'école d'Élie le prophète », ça veut dire un vrai chidouche. Et c'est là. C'est clair. Je vais quand même expliquer un peu plus, puisque j'ai fait allusion à cela. Élie le prophète est le seul prophète dont nous n'avons pas de livre, la prophétie d'Élie le prophète. Tout ce que nous savons de l'enseignement d'Élie le prophète, c'est par son disciple Élisée, Élisha. Okay. Et alors, il est destiné à revenir pour réinaugurer la prophétie. Je cite cela pour expliquer ceci, c'est que la prophétie d'Élie le prophète est une prophétie qui est retenue. Elle nous manque. Et alors, chaque fois qu'il y a un dévoilement de sagesse qui est de l'ordre du chidouche, on dit que c'est un peu de cette prophétie non écrite d'Élie le prophète qui nous est donnée, égrenée le long du temps jusqu'au retour d'Élie le prophète. C'est Tana de Béli, Elia. Donc, vous aviez, madame, une question là-dessus? Bien sûr, c'est après cette enquête de Mifran en français, de mise à l'épreuve de l'authenticité, qu'on sait si c'est allé vivante ou pas. Je dois vous dire que la familiarité de l'étude nous fait entendre cela assez immédiatement. Par exemple, si vous portez un livre ou photocopie d'un manuscrit ancien, ou je ne sais pas quoi, d'une phrase citée par tel historien, un Talmid Chacham, il peut vous dire au premier regard si c'est un texte traditionnel ou pas. Une sorte de familiarité. Alors bien sûr, ça s'étudie, ça s'analyse, exactement comme vous avez dit. Et surtout, ça se confronte avec tout ce qui a été dit, c'est cela. Pour vous donner un exemple, vous apportez une équation mathématique, vous avez intentionnellement mis une petite faute à un mathématicien, en regardant, il sait qu'il y a une faute. Vous voyez ce que je veux dire? Ou un véritable biologiste, et c'est dangereux lorsqu'il s'agit d'une formule à donner à un laboratoire de pharmacie pour avoir un médicament, pour revenir au sujet. Bien. Bien, alors donc, le premier sujet que nous allons commencer à étudier aujourd'hui comme introduction, et nous en déciderons ensemble. Nous avons prévu les cours, donc, ce matin, mercredi, jeudi, vendredi. Mais comme je suis encore à Paris lundi et mardi matin prochain, si vous voulez que nous continuions à étudier lundi et mardi, vous me le direz vendredi. Top. Oui. Alors, je voudrais étudier comme sujet l'importance des récits historiques que nous avons dans le Pentateuque comme préface à la Torah en tant que loi. Et cela, nous allons l'étudier dans la première question que pose Rashi dans son commentaire, c'était notre sujet préalable, commentaire entre guillemets, dans le livre de Bereshit. Alors, prenez votre livre de Bereshit à la première page. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais demander à l'un d'entre vous de lire à voix haute et assez lentement la traduction française que vous avez dans vos livres, du premier enseignement de Rashi. Ensuite, je la reprendrai en traduction littérale de l'hébreu au français pour mettre en évidence les difficultés de traduction. Entre-temps, vous aurez oublié la traduction imprimée, je l'espère en tout cas. Et puis, on commencera à l'étudier sur notre sujet. Pourquoi les commentateurs, je vais donc employer ce mot en français, enfin les mefarshim, ont jugé, ici nous avons le cas de Rashi, mais cette question est posée plusieurs fois dans le Midrash, ont jugé qu'il y avait un problème dans le fait que, avant de nous donner les lois, la Torah jugeait nécessaire de nous raconter l'histoire de l'humanité à l'échelle universelle, c'est le sujet du séminaire, du dedans de cette universelle de l'humanité, apparaît l'identité Israël à qui la Torah sera donnée comme loi. Mais pourquoi était-il nécessaire d'avoir cette préface des récits historiques? Ce que je veux mettre en évidence, c'est l'importance de ces récits historiques dans la révélation de la Torah et le sujet que nous sommes en train d'étudier. D'ailleurs, je vous demanderai de formuler vos questions par rapport à ce sujet. C'est la spécificité d'Israël dans l'universel humain, puisque notre question d'étude, c'est Israël et l'universel humain. Je n'aurai le temps que dans les quelques cours que nous allons avoir, que d'étudier quelques, par coup de projecteur, quelques-uns de ces personnages dont j'ai donné un peu le schéma général hier soir pour ceux qui étaient là. Et alors, c'est d'après vos questions que je choisirai les textes à étudier. Oui, je l'en prie. Voilà, qu'est-ce qu'il veut donc lire? Ah, je vois que je n'ai pas pris ma loupe encore. Donc, c'est pas grave, vous en avez une. Donc, qu'est-ce qu'il veut donc lire? Alors, à voix haute et lentement, que tout le monde écoute, la manière dont on vous traduit ce premier commentaire. Voilà, vous y êtes. On désigne un volontaire. Oui, je vous montre.
Au commencement, où Dieu créa.
Non, mais attendez, excusez-moi, pas en français.
Ici. Au commencement, où Dieu créa.
Ah non, vous êtes plus haut, tout au début.
Ah, ben, ici, là. Bon, alors, début du commentaire. Hein. Au commencement, Rabbi Yitzhak dit, la Torah aurait dû commencer, parenthèse, au chapitre 12 de l'Exode, fermez la parenthèse, ce mois-ci est pour vous le premier des mois, puisque c'est la première mitzvah prescrite à Israël. Pourquoi débuter avec Bereshit? Parenthèse, nous en trouvons l'explication dans les psaumes. Fermez la parenthèse. Dieu fait connaître à son peuple la puissance de ses œuvres afin de lui donner l'héritage des nations. 3.6. Si les peuples du monde venaient à dire à Israël « Vous êtes des voleurs », c'est par la violence que vous avez conquis les terres des sept nations, on leur répondrait, toute la terre appartient au Saint, béni soit-il, c'est lui qui l'a créée et il l'a donnée à qui bon lui semble. Jérémie 27, 5. Par un acte de sa volonté, il l'a donnée à ses peuples et par un autre acte de sa volonté, il l'a reprise pour nous la donner à nous.
Bien. Voilà, jusque-là. Alors, vous voyez à quel point c'est impressionnant comme citation. C'était pas prévu, mais enfin, on va quand même. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps, même pendant toute la semaine, d'arriver au bout de l'exégèse minutieuse de ce Rashi, dans le sens de la réponse qu'il donne à sa question. C'est surtout sa question que nous allons étudier. Mais je veux mettre en évidence, avant de commencer la traduction littérale que vous allez copier, pour la confronter d'ailleurs avec votre texte, la difficulté de la traduction en français d'un commentaire traditionnel, entre guillemets. Ce qui a dû vous apparaître, c'est la grande difficulté de la cohérence du raisonnement que nous donne Rashi. On ne comprend pas comment la réponse répond à la question. Quelle était sa question? Comment se fait-il que la Torah ne commence pas à la première mitzvah, commandement donné à Israël? Et c'est le verset 2 du chapitre 12 de l'Exode. Nous avons donc tout le livre de Bereshit, plus les 12 premiers chapitres, du livre de l'Exode, qui sont des récits historiques, qui sont l'objet de la question de Rashi. La Torah aurait dû commencer au chapitre 12 de l'Exode, verset 2. C'est clair? Et donc, sa question porte sur un livre entier plus 12 chapitres. Et il ne semble donner dans sa réponse, qu'on ne voit pas très bien comment elle s'adapte à sa question dans tous les cas, que sur le premier mot du premier verset. Et qu'est-ce qu'il fait de tout le contenu de l'objet de sa question? Est-ce que ma question est claire, Ken? Oui, la difficulté. Bien. Mais je voudrais surtout, vous voyez que dès qu'on commence à lire en français la traduction de nos textes traditionnels, la Bible elle-même et ses commentaires entre guillemets, il faut savoir à l'avance qu'on n'y comprend rien. Je ne dis pas ça pour causer des ennuis aux éditeurs des traductions, mais il faut être lucide. Bon. Et je veux dire, avant même d'avoir lu le texte hébreu, nous voyons que du point de vue de la cohérence du raisonnement, il y a quelque chose de bancal. Okay. C'est clair? Donc, vous voyez, nous allons aborder en laboratoire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, la minutie de mise en mifhan, mise à l'épreuve de ce que c'est qu'un chidouche. Quel est le chidouche de Rashi? Qu'est-ce qui nous apprend de plus que ce que nous pourrions comprendre par nous-mêmes à première lecture? Que nous avons un livre qui est censé être le livre des lois, mais qui a une préface historique. Qu'est-ce que Rashi a voulu nous enseigner de nouveau? Chidouche, enseignement nouveau, que nous n'aurions pas compris par nous-mêmes, tous, l'humanité entière. Sinon, on n'aurait pas besoin de Rashi. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Donc. Mais je voudrais ponctuellement mettre en évidence la difficulté du traducteur. Vous avez l'expression « et il la donne à qui bon lui semble ». Vous vous rappelez? Bon, ça ne peut pas ne pas être choquant. Dès le début, on a l'impression d'avoir affaire à un Dieu capricieux, à qui bon lui semble. Derrière, il y a un problème théologique énorme, le problème de l'élection d'Israël, à qui bon lui semble. Okay. Mais traduit ainsi « à qui bon lui semble », ça rend grotesque cette prétention de l'élection d'Israël. Cette catégorie, d'ailleurs, je vous l'exprime en français, Asher Bachar Banu en hébreu, ça veut dire encore autre chose. Si j'arrive à vous convaincre dans ce séminaire, comme avec les autres, que pour étudier le judaïsme, il faut l'étudier en hébreu, et qu'on étudie en hébreu que dans le pays des hébreux, ça sera déjà pas mal. Eh bien, ça, pour le moment, c'est encore de l'hébreu, parce que c'est du français. En réalité, quelle est l'expression du texte dans Rashi, vous allez l'avoir en hébreu par vous-même, qui nous est traduit par « à qui bon lui semble ». Dépister cette expression dans Rashi, c'est « Asher yachar be'enav ». L'Asher yachar be'enav, ça veut dire « à qui est droit à ses yeux, à qui le mérite ». Vous voyez que c'est un tout autre monde. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il faut imputer une maladresse au traducteur, mais le traducteur manie peut-être un peu maladroitement la langue française. Or, dans les écoles d'études en français, on est habitué au sens originel des mots français, sans se rendre compte, on est pris dans le piège du problème de la traduction, sans se rendre compte qu'il a pu évoluer dans la mentalité immédiate, quotidienne. Je vais un peu changer l'ordre des mots en français. À qui lui semble bon, tout change. Est-ce que c'est clair? Bon, il y a ce que nous appelons un remez, une allusion, dans la manière d'étudier cela en hébreu, et là j'ai en tête un des commentaires postérieurs à Rashi, et que le mot de yachar, qui signifie droit, vous voyez, il y a un jugement de valeur, il faut une yachrut, un yosher, pour mériter cette terre, et est une des composantes du mot Israël. Visualisez le mot Israël. Yud, Sin, Resh, Alef, Lamed, le début du mot c'est Yachar. Yachar, El. Vous voyez dans quelle profondeur ça nous jette. Okay? Mais je reviens un peu en arrière. Donc vous voyez la difficulté de l'entreprise. Un non-juif préoccupé des problèmes des restes d'Israël contemporains qui commence dès que le peuple juif a décidé de revenir sur sa terre, c'est ce sujet. Il y a ici une prémonition prophétique de Rashi. Qu'est-ce qu'il faut d'abord, de quoi il faut d'abord s'occuper lorsqu'on étudie la Torah? C'est de la coalition des nations contre Israël le jour où le peuple juif voudra revenir sur sa terre. Vous remarquez cette coïncidence énorme, okay? Yeah, yeah. Et parmi tous les commentaires nécessaires sur ce verset, qu'est-ce que Rachi a choisi spontanément cette question-là. Et les sources qui vont nous être citées, c'était ce problème au temps de la sortie d'Égypte. Dès le temps de la sortie d'Égypte, il y a une coalition universelle contre Israël sortant d'Égypte, de l'exil d'Égypte, et cherchant à rentrer chez lui. Tous les mots ayant leur sens simple, n'est-ce pas ? Et alors, c'est ce problème-là que Rashi va nous donner comme réponse à une question apparemment qui n'a rien à voir. Pourquoi ça commence avec des récits historiques ? Vous y êtes ? Non. Et alors, nous allons aujourd'hui essayer de suivre l'exégèse, la traduction littérale de Rashi dans l'exégèse de la question que pose Rashi, pour comprendre quel est le chidouche qu'il veut nous transmettre, mais surtout pour comprendre quelle est la question qui s'est posée à lui, de cette sorte, de comprendre la cohérence de la réponse qu'il donne à sa question. Ça va jusque-là ? Alors, suis avec moi, littéralement, mot par mot, dans Rashi. Ceux qui suivent en français, suivez en français. Ceux qui suivent en hébreu, suivez simultanément en hébreu et en français. Alors, je dis ceci. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a enseigné. Il y a tout un problème d'érudition pour savoir qui est ce Rabbi Yitzhak et où il enseignait ça. Je laisse ça de côté. Lo haya tzarich, il n'était nécessaire, les atril et la Torah, de faire débuter la Torah. Je vais lentement. Il n'était nécessaire de faire débuter la Torah. Vous avez encore en tête comment votre traduction française disait, en inversant la forme. Relisez encore à voix haute. Qui lit ? Oui, à voix haute. Voilà. Mais c'est un autre, une autre parole. Est-ce que c'est clair ? Okay. Parce que dit Rabbi Yitzhak que cite Rashi, Lo haya tzarir, il n'était nécessaire, souligné nécessaire, on va se poser la question tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est nécessaire de commencer un livre ? On ne peut pas écrire un livre sans le commencer. Alors la question, il est nécessaire de commencer, pose un problème difficile. Vous avez compris ? Bon, c'est pas trop dur dès le début. Bon. Et on va s'en occuper tout à l'heure. Donc, il était nécessaire. Les atriles, ça veut dire, ça peut se traduire par commencer. Mais ça veut dire, strictement, grammaticalement, faire débuter. Techila, atrala, le début. Les hachel, commencer. Les atril, faire commencer. Faire débuter. C'est un ifeil, en grammaire. Et la Torah, est là, si ce n'est, par, deux points ouvrez les guillemets, achodesh azelachem, ce mois-ci, je vous cite le verset, achodesh azelachem, rosh chodashim, rishonu le chodshe hashana, c'est la première des mitzvot donnée à la sortie d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera le premier des mois de l'année. Explication brève, pourquoi c'est ce verset, ce commandement qui est le premier des commandements que nous voyons dans la Torah en tant que commandement. Avant cela, petite parenthèse d'un autre sujet, qui est qu'il y a quand même sept commandements qui sont donnés dans le récit historique avant ce verset qui est donné à Israël. Mais c'est des commandements qui sont donnés à des individus. Et nous verrons cela dans la suite de Rashi. Donc, si vous avez à l'esprit l'objection, mais le commandement de la circoncision, le commandement de l'interdiction du nerf sciatique, je vous donne des exemples, sont déjà, le commandement de manger du sang, sont déjà donnés avant ces commandements de la sortie d'Égypte, la réponse est très simple, ce sont des commandements qui sont indiqués à des individus, mais la Torah révélée à Israël comme peuple, et Rashi va le dire, ne commence qu'à la première des mitzvot qui est donnée à la sortie d'Égypte. Je referme la parenthèse. Alors, pendant tout le temps hébreu précédent la constitution d'Israël en nation à la sortie d'Égypte, le calendrier avait une autre structure. Le commencement du calendrier était le mois de Tishri et non pas le mois de Nissan. Alors, la première chose que renouvelle la Torah dans sa révélation, c'est qu'à partir de maintenant, vous commencez à compter le temps dans le rythme du mois de la sortie d'Égypte et non pas du mois de la création du monde. C'est un thème pour lui-même. C'est clair jusque-là ? Quelle est la différence de sens du calendrier qui commence à Tishri, commémoration de la création du monde, et du calendrier tel qu'il commence à Nissan, commémoration de la sortie d'Égypte? C'est un sujet important pour lui-même. L'année de Tishri, c'est la commémoration du temps universel, de l'histoire universelle. L'année de Nissan, de l'histoire spécifique d'Israël. Vous savez que notre calendrier a quatre commencement de l'année, 4 Rosh Hashanah, le premier Tishri, le premier Nissan, le premier Elul et le Tu Bishvat. Je vous le cite simplement en passant. On ne va pas étudier tout ça, ça nous prendrait trop de temps. Et l'année qui commence à Tishri, c'est l'année religieuse. L'année qui commence à Nissan, c'est l'année nationale. Alors, jusqu'au temps de la sortie d'Égypte, on connaissait la structure de l'année commençant à Tishri. Les patriarches étaient encore intériorisés dans l'année universelle, dans l'universel humain comme matrice de gestation de l'identité d'Israël. C'est à la sortie d'Égypte que cet engendrement d'Israël commence, donc le temps d'Israël commence au premier Nissan. Voilà ce que dit ce premier commandement. C'est clair jusque-là ? Il y a fait. Alors, je reprends la question de Rashi. Il n'était nécessaire, première question, nécessaire, de faire commencer, deuxième question, commencer. Il faut bien qu'un livre commence quelque part. Okay. La Torah, que par le premier, ce verset, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, continuez sur le texte, Shehi mitzvah rishona shenistavu Israël, qui est la première mitzvah dont ont été ordonnés Israël. Ce que je disais tout à l'heure, l'indication est importante déjà. Les commandements que nous lisons dans le récit historique avant sont des commandements donnés à des individus et ne prendront force de loi qu'à partir du Sinaï. Mais déjà, ils ont été pratiqués, on a vécu selon au temps des patriarches. En particulier, le commandement de la circoncision à partir du moment où Abraham le reçoit et l'accepte, en particulier l'interdiction du sang à partir de Noar, etc. Mais ce n'est pas encore en tant que mitzvah le fait d'accomplir une obligation, chova, qui sont pratiquées, c'est la manière de vie des patriarches. D'ailleurs, nous verrons plus loin que toute la Torah était vécue en manière de vie par les patriarches, elle ne prend force de loi en tant qu'obligation qu'à partir du moment où Israël est une société, une nation, et donc à partir de la révélation du Sinaï. Les patriarches, les Hébreux jusqu'au Sinaï ont vécu la Torah, c'est la manière d'être des Hébreux, comme mida, comme modalité d'être. C'est imputé aux patriarches. Abraham, Isaac et Jacob vivaient selon la Torah. Mais, à partir du Sinaï, la mida devient mitzvah. Cette manière d'être naturelle de l'être hébreu, qui est vivre selon la Torah, vous avez entendu le chidouch ? Okay. Eh bien, oui, élu prophète, je ne sais pas. Eh bien, ne prend force d'obligation comme mitzvah qu'à partir du Sinaï. Traité de Houlin, page 90 à 100. C'est là que c'est enseigné. Minute, laissez-moi finir le raisonnement, j'ai oublié. Ça y est, j'ai oublié. Et bon, vous allez appuyer cela sur un verset très familier qui est Torah tziva lanu Moshe Morasha Kehilat Yaakov. La Torah que nous a ordonné Moïse est l'héritage de l'assemblée de Jacob. Ce verset pourrait être le sujet d'un séminaire de 3 mois. Je vais mettre en évidence une lecture qui est corollaire à ce que je viens de dire. La Torah est vécue par l'être hébreu sous forme de modalité d'être. Ce n'est pas des commandements qu'il faut accomplir pour être quitte de l'obligation et en acquérir le mérite. Ça, c'est notre habitude de la Torah des mitzvot. À partir du Sinaï, c'est mitzvah et non plus mida. Notez ces deux mots. Mida, qualité, manière d'être, modalité. Mitzvah, obligation. Alors quand Abraham pratique le Shabbat, il vit comme ça. Il n'a pas dans la conscience qu'il a un devoir à accomplir de vivre comme ça. C'est comme ça qu'il vit. Attendez, après, parce que je vais oublier. Et où étais-je ? Mais quand les descendants d'Abraham, après que la Torah est révélée par Moïse, Tziva lanu Moshe, je reviens, il y a une mitzvah de vivre ainsi. Celui qui l'accomplit a un mérite, celui qui l'accomplit pas n'a un démérite. Vous voyez, deux temps de la relation à la Torah, avant le Sinaï, après le Sinaï. Et quelle est la charnière ? Avant le Sinaï, l'identité Israël, ce sont des individus exemplaires. À partir du Sinaï, c'est une nation, c'est une collectivité, c'est un peuple. Donc les deux temps de la relation à la Torah sont de nature différente. Quand vous rencontrerez des textes qui vous diront Les patriarches vivaient selon la Torah, ne vous étonnez pas. Et vous voyez la contradiction que question d'un enfant au Talmud Torah, mais n'est pas encore donnée. Elle n'est pas encore donnée comme loi d'obligation. Mais elle est la sagesse immanente à l'identité hébraïque qui sera donnée en révélation comme obligation à partir de Moïse. Donc cet être hébreu qui émerge dans l'histoire de l'humanité, de l'universel humain, dès l'origine, bien avant, ceux qui ont suivi la conférence hier soir, vous reconnaissez, bien avant le temps d'Abraham, déjà, il est, cet être hébreu, c'est l'être de Torah. Et c'est cet être de Torah qui sera révélé en une loi formulée en code, à partir de Moïse au Sinaï, comme obligation pour les individus de l'ensemble de la descendance de l'être hébreu.